Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était un instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.
Bonjour tout le monde. Donc ce matin, je retrouve avec plaisir notre invitée des matins cette semaine, Sophia Tailly, qui est venue nous présenter cette grande artiste noire américaine qui était Nina Simone. Bonjour Sophia.
Bonjour.
Alors hier, nous avons laissé les auditeurs avec Mississippi Goddam et cette chanson emblématique de Nina Simone pour son engagement politique. Est-ce que son engagement n'a pas un petit peu commencé quand elle est arrivée à Greenwich Village, ce quartier new-yorkais qui était quand même un centre d'ébullition culturelle, littéraire, musicale?
Complètement.
Avec toutes les rencontres qu'elle pouvait y faire?
Complètement. Greenwich, c'est vraiment le centre culturel de New York et c'est interracial. Et il y a une forte concentration d'intellectuels, philosophes, essayistes, artistes, noirs afro-américains qui se sont basés à Greenwich. Et Nina Simone, elle commence sa carrière et donc elle traîne, parce que Greenwich, c'est le quartier branché, quoi. Donc elle traîne un peu dans le quartier branché de New York. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de vraiment quatre personnes décisives, j'ai envie de dire, dans son engagement, dans sa vision même de l'utilisation de sa musique. C'est Langston Hughes, qui est un essayiste, qui aura écrit par exemple Mr. Backlash, Backlash Blues, qui est un titre de Nina Simone, qui a rencontré aussi James Baldwin, qui est un écrivain, qui a un de ses livres les plus célèbres, c'est La prochaine fois le feu, qui raconte l'histoire d'un noir afro-américain gay dans le sud des États-Unis dans les années 30-40. C'est un livre qui est magnifique, que je vous conseille. Leroy Jones. Alors, Leroy Jones, lui, on va dire que c'est plus un philosophe, un penseur. Il a écrit plusieurs livres. Et il a écrit un livre superbe qui s'appelle Le peuple du blues, où il explique vraiment tout le cheminement qui a pu mener à la création du blues et toute l'histoire des Afro-Américains, en fait. Et Lauren Hansberry. Lauren Hansberry, il n'y a pas beaucoup de femmes, en fait, dans la vie de Nina Simone, mais il y a Lauren. Et Lauren Hansberry, c'est la première femme noire américaine à écrivain, à avoir une de ses pièces de théâtre jouée à Broadway. Ça s'appelle Un raisin au soleil. Et c'est magnifique. Si on regarde un petit peu, on peut le trouver. Il y a eu plein de films récents, pas récents, des pièces de théâtre. Et ça raconte l'histoire d'une famille noire afro-américaine contemporaine dans les années 30, 40, 50. Et comment ils s'en sortent dans ce marasme identitaire, en fait, parce que les Noirs afro-américains, ils savent plus qui ils sont. Est-ce que c'est compliqué, quoi. Il y a eu la sortie de l'esclavage et puis les lois ségrégationnistes du Jim Crow dans le sud. Au nord, ils sont pas soumis à la ségrégation, mais ils sont dans une misère noire, n'ont pas les mêmes opportunités, n'ont pas les mêmes chances, n'ont pas. Enfin, c'est vraiment des situations très compliquées. Et c'est ces quatre acteurs-là qui vont vraiment faire prendre conscience à Nina Simone de sa position, de la position des Noirs, et qu'en tant qu'artiste, elle doit s'engager aux côtés des combattants pour les droits civiques. Et là, ça, c'est la porte, le départ. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, son obsession pour devenir concertiste classique vire à une utilisation de sa musique comme une arme politique. Parce que, au fur et à mesure de sa rencontre avec ces quatre personnes, elle se rend compte que non, elle ne va jamais devenir concertiste, la première concertiste classique noire, parce qu'elle est noire. Et elle se rend compte que ça ne va jamais arriver. Et là, elle switch complètement. Mmh. Toute son énergie, alors elle la passe. Alors dans ces cas-là, si je dois faire de la soupe, dans ces cas-là, déjà, je vais
au moins que ça serve.
Voilà. Déjà, ça va servir. Et puis moi, je vais amener beaucoup de classiques dedans. Et à partir de ça, elle développe tout un cheminement de pensée, une manière de penser radicale. Jusqu'à, par exemple, on la nomme, on dit d'elle que c'est l'une des plus grandes musiciennes de jazz. Elle détestait le mot jazz. Pour elle, elle faisait de la musique classique noire. Et moi, quand j'ai lu ça, waouh, ça m'a complètement émerveillée. Parce que subitement, moi, le mot jazz, c'était quelque chose qui me faisait très peur. Moi, je n'ai pas du tout une éducation. Je suis autodidacte à la base. Je n'ai pas du tout une éducation, un cursus classique en musique. J'ai grandi dans une cité. Je n'avais pas les moyens d'aller au conservatoire. Je n'avais pas les moyens de... Et encore moins les moyens d'apprendre. Donc, du coup, les portes du jazz, pour moi, personnellement, me semblaient complètement fermées. Donc, je ne me serais jamais autorisée à reprendre un tel répertoire, puisque pour moi c'était du jazz, jusqu'à ce que je découvre que non, pour elle c'est pas du jazz, c'est de la musique classique noire, une infusion de pop, de soul, de gospel, de folk music, de classique, de blues. Et là je me dis, mais moi la folk je connais, le blues je connais, la soul je connais, le hip hop je... ah ouais, donc c'est de la musique classique noire, on y va, alors on peut le faire. Et c'est ce qui m'a permis de me dire
d'accéder à ce monde-là,
d'accéder à ce répertoire et d'accéder à ce monde-là, et de me rendre compte que en fait, le jazz c'est une infusion de plein de choses, et c'est ce qui est merveilleux dans le jazz, et c'est ce qui permet une telle ouverture à cette musique. Et je pense que rien que par ça, elle a ouvert les portes à toute une génération d'artistes. Encore aujourd'hui, il faut savoir que Nina Simone aux États-Unis, c'est une des artistes les plus samplées par les rappeurs. C'est pas pour rien. Quand on écoute Backlash, on est en 1968, la façon dont elle le joue, mais c'est du rap. Et du coup, waouh, ça t'ouvre les portes, c'est juste incroyable. Et je pense que ça, elle en avait pas conscience, parce qu'elle, elle était très engagée dans sa bataille pour les droits civiques, parce qu'on était quand même dans une période vraiment sombre de l'histoire des États-Unis, où il y avait des lynchages, où il y avait des gens qui étaient pendus, où il y avait des bombes qui étaient mises dans des écoles à Jackson, enfin, c'était vraiment une situation très sombre.
D'ailleurs, l'auteur dit, enfin, fait dire à un des personnages, la société américaine met l'existence du noir en question, il faut donc mettre en question l'existence de cette société.
Exactement.
Et y compris de manière violente, si besoin, quoi. C'était aussi la pensée de Nina Simone.
Nina Simone était extrêmement radicale. Extrêmement radicale. C'est-à-dire qu'elle se rapprochait beaucoup des idées de Nation of Islam.
Malcolm X. Elle était plus proche de lui, d'ailleurs, que de Martin Luther King.
Ah, beaucoup plus proche, oui. Oui. Alors après... Tout le monde, toutes les communautés noires aux États-Unis respectaient Martin Luther King pour son combat et pour son engagement. Mais certaines factions, Malcolm X, on l'a cité, mais surtout Stokely Carmichael, dont on entend encore une fois très peu parler. Pourtant, c'est lui l'inventeur du slogan Black Power, Black is Beautiful. Pour lui, Martin Luther King, c'est super chouette ce qu'il raconte, mais pour lui, les Noirs afro-américains ont été jusqu'ici trop non violents, et qu'il était temps de s'armer et de reprendre ce qui était à eux. Parce que dans l'idée de Nation of Islam, mais aussi Stokely Carmichael, et c'est ce que pensait Nina Simone aussi, elle voulait carrément séparer le pays en deux, redonner les terres du sud aux Noirs, parce qu'ils avaient saigné et travaillé ces terres-là pendant 400 ans, et les Blancs au nord. Donc on en était quand même là. Donc c'était vraiment, elle était pas du tout non violente. Et si on regarde le documentaire qui est disponible sur YouTube gratuitement de Frank Lord, qui s'appelle Nina Simone the Legend, elle l'explique très honnêtement que elle n'est pas non violente, que si elle avait pu, elle aurait pris les armes et elle serait descendue tirer sur des gens. Et son mari l'en a empêché. Heureusement. Mais elle explique, elle est très claire sur ce sujet-là. Elle n'est pas non-violente. Et elle est très proche, oui, des idées Nation of Islam, Stokely Carmichael. Stokely Carmichael a beaucoup influencé et inspiré Huey Newton. Huey Newton, c'est lui qui a créé le Black Panther Party. Enfin, tout un contexte social qu'elle a, elle a, alors on va pas dire qu'elle a inspiré ça, mais elle l'a revendiqué très clairement, et ça a cramé sa carrière, parce que au fur et à mesure du temps, elle est devenue tellement engagée que même le rap, parce qu'elle avait un public blanc quand même, Nina Simone. Et d'ailleurs, faut pas oublier qu'aux États-Unis, s'il n'y avait pas eu beaucoup de blancs à soutenir le mouvement des droits civiques, peut-être que ce mouvement n'aurait été nulle part. Sauf qu'il y avait énormément de blancs qui étaient très engagés aux côtés du combat des noirs. Il ne faut pas l'oublier. Et elle, à un moment, elle a semblé l'oublier. Donc, ce qui fait que, vers la fin de sa carrière, elle commençait à vraiment invectiver le public blanc. Elle arrivait, par exemple, dans des universités. Elle jouait beaucoup pour des associations étudiantes. Et elle expliquait très clairement que le morceau suivant, il est dédicacé que aux étudiants noirs, parce que vous, les étudiants blancs, vous avez déjà tout. Vous avez déjà le classique, vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez les terres, et vous nous avez, nous. Nous, notre race, on n'a rien. Donc, au fur et à mesure du temps, bah, c'est sûr que le public blanc commence à se sentir un peu...
Stigmatisé
et blessé, bien sûr.
Et à la fois, alors est-ce que cette violence, alors que l'on peut comprendre, parce qu'elle a été, du coup, ces quatre personnes dans sa vie, avec James Baldwin, comme vous le disiez, l'ont éduquée politiquement, lui ont expliqué son histoire. Donc il y a certainement cette histoire qu'elle a intégrée et donc qui l'a révoltée. Mais est-ce que sa maladie, puisque est-ce qu'il n'y avait pas déjà quelques signes de sa maladie qui prendra parfois beaucoup le pas sur sa vie et ses comportements, qui a fait que la violence n'était peut-être pas que politique, mais aussi peut-être signe de sa maladie.
Je pense très sincèrement. Alors, Nina Simone, elle était bipolaire. Sauf que dans ces années-là, à cette époque-là, dans les années 60, jusqu'en 70, elle ne le sait pas. De plus, à cette époque-là, Nina Simone, c'est une star. Et elle est managée par son mari, Andrew Stroud, qui est un esclavagiste, en fait, parce qu'il a fait travailler et travailler sans jamais de répit, sans jamais de repos, soit ses enregistrements d'albums, après ses promotions, après ses tournées de concerts à l'international, et puis tu rentres, et puis tu retournes au studio, et puis tu crées... Enfin, c'est infernal, le rythme. Et donc, je pense que là, dans ces années-là, 64, 65, on est vraiment au pic de sa carrière, et donc elle tourne, et elle est fatiguée, et elle le dit, et on l'écoute pas. Elle dit, je n'en peux plus, j'ai besoin de vacances, et son mari toujours lui dit, non, continue encore un peu, t'auras le temps de te reposer plus tard, là pour l'instant faut continuer, on va devenir riche, etc., etc. C'est un mari violent, c'est un mari qui la frappe. Bon, alors après, de ce que j'ai pu creuser comme information, je pense qu'on était dans une relation un petit peu double, où l'un provoquait l'autre, où l'autre agressait l'autre. Enfin voilà, en tout cas, elle n'était pas entre les mains d'un mari précautionneux et doux et aimant, qui a continué à la forcer à travailler. Donc oui, moi je pense effectivement que on est déjà, il y a déjà des, et c'est sans doute aussi peut-être les raisons de son comportement parfois avec ses musiciens, parce que ses musiciens, son comportement pouvait être très dur, très très extrême. Il y a plein de vidéos sur où on la voit invectiver ses musiciens en direct sur scène. Bon, c'est pas quelque chose qui se fait de nos jours, mais je pense que oui, je pense que la bipolarité déjà parlait, ouais, carrément, ouais.
Est-ce que cette violence, on peut la retrouver dans une de ses chansons ? Alors, depuis le début de la semaine, après notre échange, on passe à un morceau de Nina Simone. Et aujourd'hui, va passer Strange Fruit. Est-ce que ce morceau est un petit peu révélateur de cette violence qu'elle vivait et dans sa vie d'engagée politique et dans sa vie personnelle, finalement?
Oui, 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 clairement. Strange Fruit, Les fruits étranges, c'est un morceau qui a été chanté par Billie Holiday, qui a été écrit, je crois, en 1929 par un auteur juif qui a assisté à un lynchage et qui ne s'en est jamais remis, et qui a écrit ce titre que Billie Holiday a chanté à chaque représentation et qui lui a valu sa carrière, puisque le gouvernement américain souhaitait qu'elle ne chante plus cette chanson et qu'elle s'est acharnée. Strange Fruit raconte une scène pastorale du sud galan où les blancs lynchent un noir afro-américain. C'est un texte magnifique qui utilise les métaphores filées, qui utilise la métaphore des fruits étranges pendus aux branches des peupliers, avec du sang aux feuilles, du sang aux racines, l'odeur très agréable des magnolias et soudain l'odeur soudaine de la chair qui brûle, les bouches déformées, les yeux exorbités. Donc oui, c'est des scènes d'une violence même pas imaginable de nos jours, en fait.
D'ailleurs, il dit le pogrom est aux Juifs ce que le lynchage, la pendaison et le bûcher est au peuple noir.
C'est ça, absolument.
Et ce titre en est la métaphore parfaite. Quoi.
Complète. C'est vraiment le titre qui exprime le plus ce qui s'est passé dans ces années-là dans le sud des États-Unis.
Donc voilà, je vous propose ce titre aujourd'hui. Donc Strange Fruit de Nina Simone. Et nous, on se retrouve demain, puisque nous avons encore deux matinées à passer ensemble. À demain.
À demain.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voilà. la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.